On va parler dans quelques secondes, sinon dans quelques minutes, avec Luc Laliberté, parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté de la politique américaine. Mais la semaine prochaine, je vais être en relâche. C'est la relâche de mon fils. Alors, je prends une semaine de congé. Mais l'émission sera bien pilotée par quelqu'un qui va être bien en selle, Pierre Nantel, qui est là. Salut, Pierre.
Salut, Richard.
Merci beaucoup de prendre le contrôle de l'émission la semaine prochaine. Écoute, j'espère que d'ici là, la crise autochtone va être réglée, puis tu vas pouvoir parler d'autres sujets.
Écoute, ce qui est très clair, en tout cas, c'est qu'on peut se questionner comment ça se fait qu'aujourd'hui, on découvre ce poteau rose là, de la nation Wet'suwet'en, des chefs héréditaires, comment ça se fait qu'alors qu'il y a deux ministres qui s'occupent précisément de la question des Autochtones à Ottawa, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait un potentiel d'inflammation totale.
T'as raison, parce que moi, bien humblement, je connaissais pas l'existence des chefs héréditaires. J'avais aucune idée.
Imagine, moi, j'ai été député pendant 8 ans là-bas. J'ai découvert la question autochtone que j'ignorais, ou qu'en tout cas, je soupesais certainement. Et même, avec mon engagement sincère envers les Premières Nations, j'ai même ajouté à mon serment de député que j'allais assumer, tu sais, en respect avec la reine et tout ça. Mais j'ai ajouté, et je le ferai en respectant les traités avec les Premières Nations. J'ai ajouté ça dans mon serment officiel. Roméo Saganache, Georgina Jolibois puis Nikki Ashton l'ont ajouté elles aussi. Alors, il y a 4 députés dans la Chambre de communes en 2015 qui ont ajouté ça à leur serment. Malgré cet intérêt, malgré ma proximité et l'amour sincère que j'ai pour Roméo Saganache, je ne connaissais pas cette subtilité-là. Alors, comment expliquer que quelque chose d'aussi grave surgisse comme ça, out of the blue, alors que c'est si important, puis que tu as deux ministres, où êtes-vous? Où étiez-vous il y a 10 jours?
Et leur job, c'est ça, c'est de prévoir ce genre d'affaires-là.
On parle de réconciliation.
Là, tu le sais que si tu as un projet de gazoduc, tu sais bien que les nations autochtones vont se lever, puis ça va réagir.
C'est pas d'hier qu'il y a un problème avec le tracé de ce pipi-là. Je veux dire, même il y a des tracés, on voyait dans le Journal de Montréal, je pense, hier, qu'il y avait un tracé alternatif qui avait été proposé, puis qui était rejeté par la compagnie. Parce que ça coûtait un peu plus cher, parce que ça traversait, je sais pas, quelques rivières, puis c'est sûr que c'est très important, tant mieux s'il y a un souci de sécurité environnementale. Mais au niveau du coût, je peux te dire qu'on a déjà dépassé le surplus de coût? Rien qu'en coût pour tous les Canadiens, pour tous les Québécois?
Tout à fait raison. Donc, les gens s'ennuieront pas avec toi la semaine prochaine. Faut pas que tu sois trop bon. C'est ça l'affaire. Quand tu te fais remplacer,
un bon père, par exemple.
Il faut pas que tu sois trop bon parce que là, les gens s'ennuieront pas de moi. Non, mais écoute, t'es excellent, Pierre. Ça va être bien le fun.
Merci.
Je vais essayer de t'écouter peut-être même.
Non. Il faut que tu décroches.
Je décroche. Merci beaucoup, Pierre Nantel. Donc, à partir de lundi, il va être là toute la semaine prochaine. On va parler de politique américaine avec Luc Laliberté. Salut, Luc.
Oui, bonjour, Richard.
Hey, Mini-Mike, ça va bien pour Mini-Mike?
Écoute, ça va être particulièrement intéressant. Moi qui commençais à me lancer un peu des débats démocrates, parce qu'on en a eu plusieurs, puis ils n'étaient pas tous particulièrement relevés. Ce soir, la présence de Mini-Mike, ben ça risque. Il va être, écoute, c'est comme l'expression consacrée le dit, ce sera sa fête ce soir. Donc, il est la cible de ceux qui tentent de demeurer, de prouver qu'il demeure pertinent. Et si je suis Joe Biden, ben la personne qui me dérange le plus sur mon terrain actuellement, c'est Mike Bloomberg. Puis on peut penser qu'un représentant du 1% du 1%, ben Bernie Sanders ne devrait pas manquer une opportunité de le pousser dans le coin à l'occasion.
Oui, c'est ça. Il y a des démocrates qui disent qu'ils sont mal à l'aise qu'un très, très riche multimilliardaire se présente. Mais en même temps, Luc, il faut dire que les Américains n'ont pas le même rapport que nous avec l'argent. Par exemple, quand Pierre-Carl Péladeau s'est lancé en politique, il y a des gens qui avaient un malaise avec ça en disant un millionnaire en politique. On est, tu sais, nous autres, avec l'argent, là, on est catholique, hein. On le dit, là, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. Ça, c'est le catholicisme. Aux États-Unis, ils sont protestants. Puis le protestantisme, c'est si t'es riche, c'est parce que Dieu t'aime beaucoup puis t'as réussi. Ils n'ont pas le même rapport avec la réussite financière.
Oui, puis pour plusieurs, Michael Bloomberg, malgré le fait qu'il soit un milliardaire, c'est un peu l'antithèse de Donald Trump. M. Trump, on le sait, sa réputation comme homme d'affaires, c'était toujours un peu trouble. On se voit toujours dans des trucs qui étaient plus ou moins clairs, plus ou moins nets. De ce côté-là, Michael Bloomberg peut dire, écoutez, non seulement je vaux beaucoup plus, mais j'ai largement mérité tout ça au sens où j'ai joué à la régulière et je me suis imposé par mon talent. Donc, il peut toujours faire valoir ça. Et pour plusieurs Américains, ben effectivement, c'est une allusion très claire. sert à une forme de réussite. En même temps, ce que disent une partie des Américains qui réagissent à ça, puis c'est quand même une question qu'il faut se poser. Il n'y a rien qui empêche un milliardaire de déposer sa candidature. Et ça prend d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'argent pour être élu aux États-Unis.
Ben oui.
Mais faut-il désormais être milliardaire? Parce qu'on aura cette fois-là Donald Trump d'un côté et, s'il devait s'imposer, ben Michael Bloomberg de l'autre.
Alors là, les démocrates s'en vont vers une tempête politique. D'ailleurs, es-tu dans une tempête, toi, Luc? On entend vanter beaucoup.
Les conditions sont un peu particulières. J'ai réussi à me glisser en deux rendez-vous pour m'assurer de discuter avec toi, mais c'est pas idéal.
OK. Écoute, oui, ben tu sais, il y a personne de tout nu qui se lance à la présidence des États-Unis. Ils sont tous très riches, là.
Oui, oui. Soit on est riche, soit, puis ça, chez les démocrates, on est toujours pris avec le même problème. Des gens comme Pete Buttigieg, par exemple, avaient des revenus plus modestes, même s'il a déjà travaillé pour une grande firme de conseil. Mais en même temps, ces donateurs, ils sont particulièrement généreux. Même Elizabeth Warren, qui est pourtant progressiste, puis qui dénonce l'arrivée dans la course de Michael Bloomberg, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour de grandes firmes. Et si on voulait imposer un test de pureté financière à tout le monde, ça devient très, très, très complexe à gérer. Même Bernie Sanders, depuis la publication de ses livres, il est entré dans le groupe des millionnaires. Donc, on a à gérer ça, mais la politique américaine, c'est un sport qui est particulièrement coûteux. Et beaucoup de candidats ont pris la peine de dire, ça prend de l'argent. Même des progressistes ont dit, écoutez, Michael Bloomberg, moi, tant et aussi longtemps que l'argent qu'il a et qu'il peut mettre plus de zéros sur un chèque que moi, mais qu'il met ça dans une bonne cause, il est le bienvenu.
Mais en tout cas, c'est ce soir, donc c'est à quelle heure le débat, ce soir?
Donc ce soir, moi je commence à me préparer autour de 20h, 21h, ça va débattre farouchement. C'est intéressant parce que, je répète, M. Bloomberg, c'est la première fois qu'il est là. Il n'a pas la réputation d'être un très, très bon débatteur. Puis en plus, ben, son nom n'est pas sur les bulletins samedi au Nevada, qui est la prochaine étape des caucus et des primaires. Okay. On ne va le voir que le 3 mars. Mais je répète, c'est une très, très belle occasion, un, pour lui de se faire connaître, de voir comment les gens vont réagir à son style, mais surtout pour ses adversaires de faire la démonstration que, malgré l'arrivée d'une grosse pointure, d'une candidature prestigieuse, ils ont encore leur place dans la course.
Merci beaucoup. Écoute, j'ai très hâte de voir ça. On s'en reparlera la semaine prochaine. Je te laisse à ton rendez-vous, Luc. Merci beaucoup.
Bye-bye,
merci.
Bye,
salut. Pierre, est-ce que tu suis ça, la politique américaine? Penses-tu que les démocrates... Parce que moi, écoute, si les démocrates vont au bat là, contre Donald Trump avec Bernie Sanders...
Mm-hmm.
Bernie Sanders, c'est la gauche de la gauche.
Oui, c'est sûr.
C'est comme...
Je dirais tant qu'à moi que ce pourquoi M. Trump aujourd'hui est président des États-Unis, c'est parce que les démocrates ont été un peu chochottes. Ils ont joué safe avec Hillary Clinton. Ils n'ont pas dit, ah, alors Bernie Sanders, c'est trop, trop, trop. Alors que là, ils risquent de susciter, de fouetter les troupes. Si t'as un cas comme Bernie Sanders, tu risques de susciter beaucoup d'enthousiasme chez les grands militants. C'est chez ceux qui font les appels, ceux qui donnent, ceux qui veulent se mobiliser, qui font des rallyes. Ces gens-là vont être très... stimulé par l'arrivée de Bernie Sanders, qui est très inspirant parce qu'il dit toujours, depuis longtemps, cette même vision d'une autre type d'Amérique, d'une Amérique qui aurait, par exemple, l'assurance maladie.
C'est comme le Donald Trump de gauche, c'est-à-dire que Donald Trump, il n'est pas vraiment un républicain. Donald Trump, c'est pas un républicain. Il s'est accroché au Parti républicain, mais tu sais, il s'en fout du Parti républicain. Ouais. Et Bernie Sanders, je pense, et j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu qu'il n'a même pas sa carte de membre du Parti démocrate. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quelqu'un qui s'identifie pas au Parti démocrate. Et là, tu sais, donc, c'est deux outsiders.
Oui, mais puis d'ailleurs, c'est drôle que tu décrives ça comme deux outsiders parce que Bloomberg, finalement, il est vraiment au milieu. Hein? Il est à la fois à gauche, à la fois à droite. Il fait partie de cette droite économique, mais de la gauche sociale. Il a quand même challengé beaucoup de choses et reconnu beaucoup d'erreurs dans sa mairie de la ville de New York. Alors, c'est vraiment fascinant ce qui se passe ici.
Mais j'aime ton analyse. C'est intéressant de dire, s'ils vont avec quelqu'un de safe, non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec quelqu'un qui soit aussi surprenant, aussi weirdo que Donald Trump pour donner le change.
Mais c'est parce que ultimement, moi je peux dire en tout cas que les élections, c'est beaucoup une histoire de stimuler ceux qui ont envie de s'impliquer dans une campagne. Si tu veux gagner une élection, faut que la machine électorale fonctionne. Pour que la machine électorale fonctionne, qu'elle appelle les gens qui peuvent te soutenir, ça te prend des bénévoles. Alors si ton chef ou ta chef ne stimule pas, ne motive pas l'élan bénévolat, l'élan d'implication, ça se peut que tu ne puisses pas aller faire le plein du vote que tu mériterais. Alors, c'est là que l'arrivée de Bernie Sanders est intéressante. Et sa remontée actuellement est surprenante, honnêtement. Là,
mais oui.
Je suis très surpris. Et la descente de Biden est exceptionnelle.
Écoute, c'est un meltdown, comme on dit.
Absolument.
Là, il a implosé. Merci beaucoup, Pierre.
Merci.
On s'en va à la pause. Et tout de suite après, on reçoit Christian Dufour, comme tous les mercredis.